Thank you for coming out. I apologize, I can't speak to you in French. To give context, maybe, just this is an infantryman who served in a very intense part of Iraq, and this is his first weekend home.
Pour vous donner une idée du contexte, cette nouvelle parle d'un soldat de l'infanterie qui combat dans un endroit très dangereux de l'Irak, et c'est son premier week-end de retour chez lui.
So here's an experience. Your wife takes you shopping in Wilmington. Last time you walked down a city street, your marine on point went down the side of the road, checking ahead and scanning the roofs across from him. The marine behind him checks the windows on the top levels of the buildings. The marine behind him gets the windows a little lower, and so on down until your guys have the street level covered, and the marine in back has the rear. In a city, there's a million places they can kill you from. It freaks you out at first, but you go through like you were trained, and it works. In Wilmington, you don't have a squad, you don't have a battle buddy, you don't even have a weapon. You startle 10 times checking for it, and it's not there. You're safe, so your alertness should be at white, but it's not. Instead, you're stuck in an American Eagle Outfitters. Your wife gives you clothes to try on, and you walk into the tiny dressing room. You close the door, and you don't want to open it again. Outside, there are people walking around by the windows like it's no big deal. People who have no idea where Fallujah is, where three members of your platoon died. People who've spent their whole lives at white. They'll never get even close to orange. You can't until the first time you get into a firefight, or the first time an IED goes off that you missed, and you realize that everybody's life, depends on you not fucking up, and you depend on them. Some guys go straight to red. They stay like that for a while, and then they crash, go down past white, down to whatever is lower than, I don't fucking care if I die. Most everybody else stays orange all the time. Here's what orange is. You don't see or hear like you used to. Your brain chemistry changes. You take in every piece of the environment, everything. I could spot a dime in the street 20 yards away. I had antenna out that stretched down the block. It's hard to even remember exactly what that felt like. I think you just take in too much information to store, so you just forget. Free up brain space to take in everything about the next moment that might keep you alive. And then you forget that moment, too, and focus on the next, and the next, and the next, for 7 months. So that's orange. And then you go shopping in Wilmington, unarmed, and you think you can get back down to white? It'll be a long fucking time before you get down to white. Thank you.
Voilà une expérience. Votre femme vous emmène faire des achats à Wilmington. La dernière fois que vous avez marché dans une rue, votre gars en pointe avançait sur un côté de la route, observant devant lui et scrutant les toits de l'autre côté. Le marine derrière lui observait les fenêtres des étages supérieurs des bâtiments. Le marine derrière lui s'occupe des fenêtres situées un peu plus bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vos hommes couvrent complètement le niveau de la chaussée. Et puis le marine qui ferme la marche surveille vos arrières. Dans une ville, il y a 1 million d'endroits d'où on ne peut vous tuer. D'où on peut vous tuer, excusez-moi. Au début, ça vous fait flipper. Mais vous faites comme on vous l'a appris à l'entraînement. Et ça marche. À Wilmington, vous n'avez pas de section avec vous. Vous n'avez pas d'équipier, vous n'avez même pas d'armes. 10 fois, vous sursautez. Vous cherchez votre arme et elle n'est pas là. Vous êtes en sécurité, alors votre niveau de vigilance devrait être ouvert, mais il ne l'est pas. Au lieu de ça, vous êtes coincé dans un magasin américain, voilà, je ne dis pas le nom parce que je vais mal le prononcer. Vous êtes coincé dans un magasin, votre femme vous tend des vêtements à essayer et vous entrez dans la minuscule cabine. Vous fermez la porte et vous n'avez plus envie de l'ouvrir. À l'extérieur, il y a des gens qui passent devant les vitrines sans s'en faire. Des gens qui n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Fallujah, où 3 gars de votre peloton ont été tués. Des gens qui ont vécu toute leur vie avec un niveau de vigilance au vert. Ceux-là ne s'approcheront même jamais de l'orange. Vous ne pouvez pas connaître ça jusqu'au jour où, pour la première fois, vous êtes pris dans une fusillade. ou un EEI que vous n'avez pas remarqué explose. Et vous vous rendez compte que la vie des autres, de tous les autres, dépend de votre capacité à ne pas merder et que vous dépendez des autres. Il y a des types qui grimpent directement au rouge. Ils y restent pendant un moment et puis ils s'écrasent. Ils retombent en dessous du vert, plus bas que le niveau. J'en ai rien à foutre de mourir. La plupart des autres restent à l'orange, en permanence. Vous voulez savoir ce que c'est l'orange ? Vous ne voyez plus et vous n'entendez plus comme avant. La chimie de votre cerveau change. Vous saisissez tous les détails de votre environnement, absolument tous. Je pouvais repérer une pièce de 10 cents à 20 mètres de distance dans la rue. J'avais des antennes qui se déployaient sur tout le pâté de maison. J'ai du mal à me rappeler exactement la sensation que j'éprouvais. Je pense que vous saisissez trop d'informations à stocker. Alors, vous oubliez. Vous libérez de l'espace dans votre cerveau pour pouvoir saisir tout ce qui, dans l'instant d'après, pourrait vous garder en vie. Et vous oubliez ce moment-là aussi, pour vous concentrer sur le suivant, puis le suivant, puis le suivant, pendant 7 mois. C'est ça l'orange. Et puis, vous allez faire des courses à Wilmington, sans armes, et vous vous imaginez que vous pouvez descendre au vert ? Putain, ça va prendre un sacré bout de temps avant que vous puissiez retrouver le vert.
Little bit from Goat Mountain. The smell of sugar pines, sweeter like their name, and the enormous cones, 2 feet long and half a foot thick, wide petals of something not wood or flower, but a substance all its own, curving outward together and darker at their tips. My father stopped in the final stand of trees before we'd enter the glades, stopped where he always had, and Tom was out to make room for my grandfather, who appeared without his rifle because he cared more for these cones than he ever had for deer. My grandfather, collector, but only of these cones, something I never understood. I hopped down and followed at a safe distance under the trees. Cool in here, the breeze that came at the end of every day, and the pines looked silky, the pale green arranged everywhere above us in brushed arcs, a kind of sanctuary, the trees very tall, taller here than any other stand of sugar pine I'd seen. My grandfather taking his first steps, leaning too far forward, a child in an enchanted garden, his tongue on his lower lip, mouth open and breathing hard, his hands forward, fingers open, small hard bird's eyes hunting for seeds. He reached down for a large cone, and the weight of him seemed impossibly off-center, tiny legs behind, and struggling now to catch up as he lurched forward and rose up, and somehow he did not fall, and he was holding a cone like a golden egg, peering at it up close, giant cone that perhaps was yet another way of reaching back in time. A pine cone nearly as large as his head, and he held it as he would a child or a lover. I realize it's so strange to read from the middle of a novel. You don't know the grandfather yet. Probably this means nothing. Sorry, I'm in a little crisis here during my reading. I should have read the opening page. Why don't I just skip to the opening page? I'm just going to read the opening page.
Qu'est-ce qu'il dit?
He does that. Excusez-moi, en fait, je réalise au moment où je suis en train de lire que ça ne va rien vous dire parce que vous ne connaissez pas le contexte, vous ne connaissez pas le grand-père, vous ne connaissez pas le décor où ça se passe. Donc en fait, je vais recommencer au début du roman. Voilà, j'ai ce genre de crise parfois.
So I'll just read 3 or 4 paragraphs from the
Donc,
beginning.
Je vais lire quelques paragraphes du début du livre. Je suis
désolé. My apologies.
Je m'excuse.
I'm not as polished or professional as my
Je suis pas aussi professionnel et polissé que mon collègue.
Okay. Dust like powder blanketing the air, making a reddish apparition of the day. Smell of that dust and smell of pine, smell of doveweed. The pickup, a segmented creature, head twisting opposite the body. Maybe this doesn't make any more sense than the middle. Anyway, sorry.
That n'a pas plus de sens pour vous. Go ahead.
Anyway, I'll just continue on. Sorry. A sharp bend and nearly tumbled off the side.
Okay, maybe you can skip that. Lis 2 pages en français.
Mais nous sommes en famille, tout cela n'est pas bien grave. Je vais juste vous lire une ou deux pages, voilà. Faut pas me faire rire, hein. Bon. Ok, on y va. La poussière comme une poudre recouvrant l'air, faisant du jour une apparition rougeâtre. L'odeur de cette poussière est l'odeur de pain. L'odeur du sumac vénéneux. Le pick-up, une créature segmentée, sa tête tournant à l'opposé de son corps. Un virage serré et je faillis dégringoler par-dessus bord. Agenouillée sur un matelas attaché sur le plateau du pick-up, tout le matériel de camping en dessous, nord de la Californie, 1978. Agrippée dans les virages et les embardées, le métal chaud même en pleine matinée. Une route enlacée grimpant dans la montagne, j'avais une boîte à chaussures pleine de cailloux, et quand nous parcourions les lignes droites, j'attrapais un caillou et le jetais au passage sur un arbre. Le lancer et la courbe, le caillou projeté sur le côté, un bon brissement tournant et fendant l'air épais mais balayé par l'élan, arraché sa trajectoire, courbé en arc, balayé bien au-delà de son but. Je ressentais déjà l'arc, le préfiguré, visé bien loin derrière, assénant un coup de poing dans l'air chaque fois que le caillou mordait le bois, le bruit sourd supplantant le grondement du moteur, peut-être la vision momentanée d'un morceau d'écorche arraché. Je vous laisse lire, chacun tranquillement ensuite.
Donc, on a eu droit à deux extraits, ou du moins un extrait et demi quand même fabuleux. Je vais commencer par présenter un petit peu Phil Clay et le recueil Fin de mission. On est sur un recueil de 12 nouvelles où on va suivre 12 soldats, chacun dans une situation bien différente, avec des aventures particulières. Et ce recueil a été publié en 2014 aux États-Unis. Il a reçu le prix, le National Book Award. Et il est sorti en 2015 aux éditions Gallmeister. Donc, ce recueil est issu d'une expérience personnelle de Phil Clay, qui a lui-même été sous-lieutenant dans les Marines pendant la guerre en Irak de 2007 à 2008. Et donc, dans ces nouvelles, on ressent toute la difficulté, toute l'horreur, toute la singularité et toute la fraternité aussi que comporte la guerre. Et on va parler notamment de ça avec lui. David Vann, en revanche, vous êtes déjà auteur de 4 romans et d'un récit, Sequoia Island en 2010, qui avait reçu en France le prix Médicis. Ensuite, Désolation, Impure et Goat Mountain, donc le quatrième roman, dont la parution a été simultanée en France, avec Dernier jour sur Terre, qui est un récit particulier, puisque non fictionnel, puisqu'on va suivre un jeune étudiant qui a assassiné 5 personnes à son université, en a blessé 18 autres avant de se donner la mort. Et dans les romans de David Vann, on retrouve toujours les mêmes thématiques particulières, qui sont un rapport à la nature très fort et des souvenirs personnels qui sont transcendés par la fiction, qui transcendent la tragédie familiale. Ma première question qu'on peut poser à chacun d'entre vous, c'est qu'à partir, d'expériences personnelles très différentes, vous avez choisi la fiction. Et je me demande quel est le pouvoir de la fiction, pourquoi avoir choisi la fiction pour parler de ces expériences personnelles.
Because fiction is so much better.
Parce que la fiction, c'est tellement mieux.
You know, with... You're, if you're just writing nonfiction, you're limited by what happened. If you're writing fiction, you can take the elements of many different experiences and you can twist the circumstances to put whatever the questions you have that you're asking yourself under pressure, and you can go into deeper and stranger places and more uncomfortable places when you're writing fiction.
Parce que lorsque vous écrivez un récit, en fait, basé sur des faits réels, vous êtes limité par ce qui s'est réellement passé. Lorsque vous écrivez de la fiction, vous pouvez prendre des expériences différentes, les agréger et les mettre sous pression pour en extraire quelque chose qui vous permettra de répondre à la question que vous vous posez et d'aller dans des endroits plus étranges ou plus mystérieux.
With fiction, it's not the factual importance so much as the emotional truth that you have to be honest to. I think of the Iliad. If you had a veteran of the Trojan War and you had him read the Iliad, he would do nothing but bitch about all the inaccuracies.
Lorsque vous écrivez de la fiction, vous vous concentrez pas tant sur les faits, sur les détails, que sur les émotions, la vérité émotionnelle. Si vous prenez par exemple un vétéran de l'Iliade qui vous lirait ce récit de son retour des guerres de Troie, il n'arrêterait pas de râler à propos de tous les détails techniques qui sont pas précis, qui sont pas réels.
Achilles wasn't all that great.
Achille n'était pas si magnifique que ça.
I'm the one who killed Hector.
C'est moi qui ai tué Hector.
But every veteran since, for thousands of years, has read that book, has read that poem, and said, "This is war."
Mais depuis des millénaires, tous les vétérans qui ont lu ce livre se disent, oui, c'est bien ça la guerre.
So, it's the best way for me to ask myself the kind of questions that I've had since I came back from Iraq.
Et donc pour moi, la fiction a bien été le meilleur moyen que j'ai trouvé pour répondre aux questions que je me posais depuis que je suis rentré d'Irak.
Yeah, I agree that fiction takes you to a different place than following the true story. I think there's a kind of unconscious transformation that can happen on the page that can surprise you.
Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que la fiction peut vous emmener dans des endroits plus étranges que la simple description des faits réels. Et je pense que lorsqu'on écrit de la fiction, il se passe quelque chose sur la page qui peut vous-même vous surprendre.
And fiction can also offer a second chance and an indirect relation to tragedies in real life.
Et la fiction peut aussi vous offrir une seconde chance et une relation... Une relation indirecte avec les tragédies de votre propre vie.
So in Sukhon Island, for instance, my dad asked me to come spend a year back in Alaska with him, and I said no. And then soon after is when he killed himself. So imagining a boy and his father homesteading for a year was a second chance to imagine what the year would have been like. And that's what fiction does that the non-fiction couldn't have done.
Et dans mon cas particulier, lorsque mon père m'avait demandé de venir m'installer avec lui pendant un an en Alaska et que j'avais refusé, quelques semaines plus tard, il s'était suicidé. Et écrire un livre qui permet à un fils de passer un an avec son père en Alaska, c'est une seconde chance et ça me permet de me poser la question de savoir ce qui aurait pu se passer, voilà, ce que la fiction permet et pas le récit.
And the surprises and unconscious transformations can unlock material. So I could never write about what my father would have looked like after his suicide, and I couldn't write about my grief on finding out that he died. But in the book, when the boy ends up killing himself, which really surprised me, suddenly I could write about the father discovering the boy's body, or the father with his grief over the boy's suicide, as long as it was indirect. Suddenly it was possible to write these stories that I couldn't write before.
Et le recours à la fiction peut aussi permettre d'ouvrir de débloquer certains verrous que un récit pourrait mettre. Par exemple, dans Sukhon Island, le recours à la fiction m'a permis de me poser la question des réactions qu'aurait pu avoir le père ou son fils face au corps de l'autre personne. Et aussi, difficile de ne pas... De pas you don't have to spoil the book.
Oh, it's fine.
Okay. C'est pas grave, pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc vous savez maintenant. Ça permet d'imaginer la douleur d'un personnage face à la mort de l'autre aussi, ce qu'on n'aurait pas pu le faire dans un récit. C'est dur pour l'éditeur aussi.
David, vous avez un rapport très psychanalytique, le livre, l'écriture a un rapport très, très psychanalytique pour vous.
Yeah, I'm guilty of that.
Oui, je suis coupable.
And I think writing, it's a fantastic therapy. It's really good. My first 3 years, I just shot things. That was my therapy. After my dad killed himself with a pistol, my family thought it'd be a great idea to give me all of his guns. So I had a 300 Magnum for shooting bears, a 30-30 rifle like in the Westerns, 12-gauge shotgun, 16-gauge shotgun. So I shot everything in the neighborhood. I shot out all the street lamps for blocks around.
Oui, l'écriture est une thérapie merveilleuse et très efficace. À l'inverse, lorsque mon père est mort, j'avais 13 ans, ma famille avait trouvé très malin de me donner toutes ses armes à feu. Et pendant 3 ans après la mort de mon père, j'ai passé ces 3 années donc à tirer sur tout ce qu'il y avait autour de moi. J'avais un fusil pour chasser l'ours, une carabine comme celle qu'on peut voir dans les westerns. Et voilà, je désinguais tous les lampadaires, toutes les ampoules de mon quartier.
The streetlights were really beautiful when they exploded. I mean, it was a thing of beauty.
C'était vraiment magnifique de voir un lampadaire exploser.
But I think that books are better therapy than shooting things, finally.
Mais je pense finalement que les livres font une meilleure thérapie plutôt que de tirer sur des choses.
The big difference between the two is that therapy and writing are both trying to find some kind of truth or investigating problems. But writing also has an aesthetic goal. It's trying to create the beautiful. So that makes it different than therapy and makes it like shooting the street lamps, because that was really beautiful too, actually. It was a kind of art.
Le point commun entre une thérapie et l'écriture, c'est qu'en fait, les deux cherchent à accéder à une certaine forme de vérité. Mais l'écriture, à la différence de la thérapie, a aussi une portée esthétique, une ambition esthétique, ce qui du coup la rapproche du fait de tirer sur des lampadaires.
Phil, au contraire, je trouve, de David, vous avez dans votre écriture une objectivité et une distance. Vous avez malgré tout une empathie avec vos personnages, mais vous restez quand même en retrait. Est-ce que pour vous, l'écriture n'a pas cette forme de thérapie, ou alors vous l'exprimez juste différemment dans votre livre?
I didn't come back from war traumatized.
Je ne suis pas rentré traumatisé de la guerre.
I came back with a lot of questions, not just about what I had experienced, but what other people I knew had experienced, what that meant, what America looked like when we came home.
Je suis rentré surtout avec beaucoup de questions, non seulement sur les expériences que j'avais vécues, mais aussi sur les expériences qui avaient été vécues par d'autres personnes, sur ce que ça voulait dire de l'Amérique, de ce qu'elle était devenue quand je suis rentré au pays.
Writing the book didn't help me make my peace with things necessarily. In some cases, it made me much angrier.
Et écrire le livre m'a pas permis de trouver une certaine forme de sérénité. Au contraire, parfois, ça m'a surtout rendu plus en colère.
But it was important to me to do.
Mais c'était important pour moi de le faire.
You know, I think I didn't just want to come back and tell my story. I felt it was important for there to be a broader conversation about war, and I wanted people to imagine the experiences of war that were maybe different from what they were getting from newspapers or in pop culture.
Et je ne voulais pas, lorsque je suis rentré au pays, juste raconter mon histoire de la guerre. Je voulais l'inscrire dans une expérience plus vaste. Je voulais que les gens aient une perception de la guerre différente de celle qu'ils pouvaient lire dans les journaux.
And that's the other thing that fiction can do. Not just asking you to imagine my experience, but inhabiting a lot of different experiences from different people who wouldn't agree with each other necessarily.
Et c'est aussi ce que la fiction permet, pas seulement de vous raconter ma propre expérience, mais en agrégeant les expériences de différentes personnes, de créer une expérience unique à partir de celles de personnes qui ne seraient pas forcément d'accord et qui ne ressentiraient pas forcément la même chose.
Je crois qu'une des raisons, quand vous parlez de fin de mission, vous dites que c'est difficile de communiquer avec des civils à votre retour. Est-ce que ce livre, c'était un moyen aussi de parler, de communiquer avec la population américaine, les civils américains?
Well, I think hopefully it would challenge both civilians and military, right? I think sometimes people in the military think, these stupid civilians, they don't know what war is, I know what war is, but military people are just people like everybody else. We lie to ourselves just the same amount.
Je pense qu'en fait, cela pose des questions à la fois aux civils et aux militaires. Souvent, les militaires auront le réflexe de dire « Oui, ces imbéciles de civils ne savent pas ce que c'est que la guerre. » Mais en réalité, les soldats eux-mêmes sont des gens comme les autres.
You know, we We get trapped in our own experience and in our own politics.
On est prisonnier de ses propres expériences, de ses propres visions politiques.
So, you know, I wanted the book to be a place where both sides could meet. I mean, you know, and react in different ways, hopefully to start a better dialogue.
Et je voulais que le livre soit ce lieu où les civils et les militaires, les deux côtés de la même médaille, pourraient se rencontrer et commencer à dialoguer.
I don't think that you come to a broader understanding of anything intense or important just on your own or just on members of your little tribe. You know, I think about the. It doesn't have to be war.
Je ne crois pas qu'on arrive à la compréhension d'événements graves ou tragiques en étant tout seul dans son coin ou avec sa petite tribu, que ce soit la guerre ou autre chose.
It's like, you know, if you're in a bad relationship, you go to your friend and complain about your girlfriend, and then they say, oh no, you're actually the one being an asshole, right? Like, you need that different perspective to grow as a human being. And I think that there's so many false narratives surrounding war and different ways for people to become isolated when we talk about an issue like that, like this.
C'est comme lorsque vous êtes dans une relation de couple qui tourne mal, vous allez parler avec vos amis et vous plaindre, raconter ce qui ne va pas, et puis ils vont vous faire prendre conscience qu'en fait, finalement, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui êtes un connard. Et je pense qu'on a besoin de confronter ces expériences et différents points de vue pour la guerre, pour avoir, par la multiplication de ces points de vue, une forme de vérité.
So that's a very long-winded way of saying yes.
Donc
but
c'est une manière très détournée de dire oui.
But I think it's important that it's not just the veteran telling the civilian, but that I think that both types of readers have equal voice. Even to me as the author, telling me things that I didn't realize about what I'm trying to express.
Donc voilà, c'est une manière un peu longue de dire oui, mais je pense en effet que c'est mieux d'avoir, enfin, plutôt que d'avoir soit les militaires, soit les civils qui apportent leur vision de la guerre, je pense que c'est important, même pour moi, l'auteur, d'avoir des personnages et des lecteurs qui partageront ces deux approches.
David, je fais un rapprochement entre Phil et vous dans ce besoin de dialoguer, de créer un dialogue avec la population américaine. Dans tous vos livres, on sent évidemment un engagement très fort, vous vous en cachez absolument pas, sur la libre circulation des armes aux États-Unis. Et est-ce que vos livres aussi, c'est ça, c'est une manière d'ouvrir un dialogue, de créer un dialogue avec la population américaine?
I didn't have any readers for a really long time. Like, my first book I worked on for 10 years, and then it wasn't published for another 12. So for 22 years, readers didn't exist. So I still never think of readers.
Pour être franc, j'ai pas eu de lecteur pendant très très longtemps. J'ai passé 10 ans à écrire mon premier livre, et il a mis 12 ans ensuite à être publié. Donc pendant très longtemps, j'ai pris l'habitude de me passer de lecteur, et donc en réalité, je ne cherche pas cette relation avec les lecteurs quand j'écris.
I have no sense of having any public role or worth in any kind of debate. You know, I've never set out with any of my books like trying to say something or create a discussion. I honestly don't care what anyone's going to think of them. I'm just trying to find out what the story is, and I don't know what the story is. I have no plan or outline when I write. And with Goat Mountain, I started to understand the book in the last 50 pages of writing it. So it was just discovery for me.
En fait, je n'ai pas l'ambition de dire aux gens ce que je pense ou ce qu'eux doivent penser. Ce n'est pas ce qui m'importe. Lorsque j'écris, je prends moi-même conscience très tardivement de ce qui se passe dans mes livres. J'écris sans plan, sans projet précis. Par exemple, en ce qui concerne Goat Mountain, j'ai pris conscience de la forme qu'allait avoir le livre et du sens qu'il allait avoir que dans les 50 dernières pages.
I actually think an idea is the worst thing that can happen to a writer, and especially a social or political idea. Like, so I'm just not like Dave Eggers in writing fictions based on ideas, for instance.
Je pense qu'avoir une idée, particulièrement une idée politique ou philosophique, est la pire chose qui puisse arriver à un écrivain. Je suis très en désaccord avec un écrivain comme Dave Eggers, par exemple, qui croit qu'il faut avoir une idée pour écrire.
But I did have a different sense of writing my non-fiction book, Last Day on Earth. I was investigating a school shooting. I was clearly talking about guns in America. Also talking about veterans in a limited way, because the shooters who were old enough had all served in the military beforehand. They all had the same politics, libertarians, very right wing. They all had mental health issues that hadn't been addressed very well. They had a lot of similarities. It was very easy to profile. And so I knew that I was talking about something in a larger context, and it was reported for a magazine. I was writing it for Esquire.
Ceci étant dit, pour ce qui concerne Dernier jour sur Terre, on m'avait demandé d'enquêter sur une tuerie de masse dans une université et je m'étais renseigné sur le profil type de ces tueurs, dont certains ont été, quand ils avaient l'âge, tous étaient passés par l'armée, avaient des problèmes de mentaux. C'était un profil de personnes très facile à profiler.
But even then, I tried to stay away from having, one political push about it. And I included my own memoir with guns, growing up with guns, alongside his story, to not make him a monster.
Et bien évidemment, même si la question des armes se pose, je voulais éviter d'imposer mes propres visions dans ce livre-là, et c'est pour ça que j'ai aussi inclus le récit de mon existence avec et mes années passées avec les armes.
So inevitably, it's a political book. I couldn't, you can't stay away from politics and writing about that. But I tried throughout to not make political comments. I just, at some points, I had to break through. Like at the end, I just had to say, like, six people dying is not important compared to what's happening every week. In America, one weekend I was in Chicago. There were 32 shootings with 9 deaths, and one weapon used was an AK-47. But that didn't make the news because it wasn't a school shooting. It's just every spring the weather warms up and people go outside more in Chicago and they shoot each other more.
Mais évidemment, avec un sujet comme ça, on pouvait pas ne pas être politique et aborder ce sujet d'une manière donc politique. Mais j'ai essayé. Pourtant, à la fin du livre, de mettre ça en perspective. Par exemple, il y a quelque temps, j'étais à Chicago et en un week-end, il y a eu 32 fusillades résultant en 9 morts, donc plus que lors du massacre de cette université. Et personne n'en a parlé dans les nouvelles parce qu'en fait, ça arrive tous les jours là-bas aux États-Unis. Et chaque année, les gens, dès qu'il fait chaud, sortent de chez eux avec des AK-47 et se tirent dessus.
And every day when I was writing the story, I had to pass these signs on the highway that said "guns save lives." So,
tous les jours, lorsque j'allais écrire ce livre, je devais passer sur la route et je voyais ces panneaux qui disaient "les armes vous sauvent la vie."
And I mean, I won't go on forever on this, I promise.
Oui.
I'll just say two last things.
Je vais pas rester trop longtemps
one
là-dessus.
Is that we have about 300 million privately owned firearms, and statistically, in our homes, they don't make us safer. People die by suicide, or the kids have an accident, or there's a domestic dispute. So just, it's not true that they save lives. They actually cause more deaths, and we've made Mexico a war zone also with 12,000 gun deaths a year. They're not actually making us safer.
Mais je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'armes en libre circulation et les statistiques montrent que loin de nous mettre en sécurité, ce sont elles qui provoquent des accidents. Les gens s'en servent pour se suicider ou les enfants ont des accidents. Les Américains aussi s'en servent pour... War on drugs in Mexico?
Yeah.
No, don't explain that.
Well, it's... Yeah, it's just a war. I mean, it's because we buy their drugs and sell them guns in our gun
shops. Et ça ça a en grande partie provoqué la guerre de la drogue au Mexique, qui est une histoire très compliquée.
So the U.S. is a war. The U.S. is a war zone every year, and Mexico is a war zone every year, just in terms of number of gun deaths. Non. So that's the part that I couldn't stay away from in the book.
Et la chose que je ne pouvais pas ne pas dire dans le livre, c'est qu'effectivement, chaque année, il y a autant de morts aux États-Unis par les armes civiles qu'il y en a lorsque le pays est en guerre.
Phil, à l'instar de David, au moins à propos de Dernier jour sur Terre, mais moi je reste convaincue que les autres livres aussi, est-ce que avec Fin de mission, vous avez la sensation, évidemment avec un sujet comme la guerre, d'écrire un livre politique?
I think it is important politically for people in a country that uses military force to think about what that looks like on the ground.
Je pense qu'il est politiquement important pour un pays qui est en guerre de voir ce que ça représente sur le terrain. Pour les...
I agree with David that just having a single political idea and then writing a book to prove that idea, it doesn't create interesting fiction because reality is not didactic.
Et je suis d'accord avec David sur le fait que avoir une idée et de bâtir tout un livre autour de cette idée ne permet pas de faire de bons romans parce que la littérature n'est pas, enfin, la fiction n'est pas didactique.
But I think that even if you're not, you know, there's not a, you know, pages long screed against the Bush administration or whatever, I think that to seriously think about the experiences of people both overseas and at home should unsettle people's political certainties. And the only fiction that I like reading, whether it's political or otherwise, is the sort of fiction that knocks me out of my sense of complacency.
Mais pour autant, sans écrire des pages et des pages pour dénoncer l'administration Bush, par exemple, je crois que lorsqu'on décrit les événements guerriers, enfin, ou la guerre qu'ont mené les États-Unis en Irak, ça provoque chez les lecteurs le fait de se poser des questions. Et c'est ce genre de roman que moi, j'aime lire, c'est les livres qui vous déstabilisent, qui vont vous permettre de remettre en cause vos propres idées.
Dans Fin de mission, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles. D'ailleurs, la première qui concerne le retour au pays, donc la condition des vétérans aux États-Unis. Et c'est une question évidemment très importante. C'est une question typiquement américaine. Quel parallèle vous faites, par exemple, avec les vétérans du Vietnam qui sont encore extrêmement représentés, notamment dans la littérature ou le cinéma américain, avec les vétérans du Vietnam? Est-ce qu'ils vont être confrontés ou ils sont déjà confrontés aux mêmes problématiques?
I don't think it's just so American a subject. I met a French veteran last night.
Je ne suis pas convaincu que ce soit un sujet particulièrement américain. J'ai rencontré un vétéran français hier soir.
Who came back looking at his country with different eyes. Bernanos, Diary of a Country Priest, at the end of that book, there's a French veteran who comes back and no longer sees the society in the same way when they talk about justice.
Et je pense qu'un vétéran rentre avec des yeux différents, un regard différent sur son pays. Dans le journal d'un curé de campagne de Bernanos, à la fin, il y a aussi un vétéran qui est de la guerre qui revient et qui porte un regard différent sur son pays.
But I think it's important, you know, the experience of coming home, that's a part of the war experience. There's
Mais l'expérience du retour à la maison fait partie de l'expérience même de la guerre.
There's a Vietnam veteran, Carl Marlantis, who says, if you ask the 20-year-old combat veteran at the gas station what it feels like to kill a man, his probable angry answer will be, it doesn't feel like a fucking thing.
Il y a un vétéran écrivain, Carl Marlantis, qui répondait à ces questions en disant, vous savez, si vous posez la question à un vétéran de la guerre qui est pompiste dans une station-service, de savoir ce qu'il a ressenti en tuant un homme. Et il vous répondra probablement en colère, « Putain, ça, on ressent rien. »
But if you ask the same veteran the same question 40 years later, you'll get a very different answer.
Mais si vous posez la même question à ce vétéran 40 ans plus tard, vous aurez une réponse très différente.
And it won't be different just because of who that veteran is or what they experienced. It'll be because of the community he's had around him.
Mais la réponse ne sera pas différente parce que en raison de la personnalité de cette personne ou de ce qu'il sera devenu, mais elle sera différente en fonction de la communauté qu'il aura autour de lui.
It's a, you know, a society as a whole that decides to go to war. And then veterans within that society, they're the ones who bore the physical and the emotional burdens of that. And then oftentimes they're the ones who come back and try and untangle the moral consequences.
Lorsque un pays part en guerre, c'est toute une société qui décide de partir en guerre. Et les vétérans qui rentrent sont ceux qui portent le fardeau de cette décision-là et qui essayent souvent de défaire les croyances et les attitudes qui ont conduit à cette guerre-là.
And I don't think that's specific to Americans, but I think particularly because of the way that veterans were sometimes scapegoated by Americans for their feeling of guilt about the Vietnam War, that it has become, and then the sort of counter response to that. where there's this kind of very patriotic loving of the veterans thing, which is also weird for a vet who feels complicated about his wars.
This is tough. I'll stop.
Et voilà.
On va faire une petite pause. Non.
The book is meant to be read with this music in the background.
Le livre est supposé être lu avec ce genre de musique en fond sonore.
Oh. It's nice.
Yeah. They plan that
for you. Mollard does everything for their author.
Yeah.
So, je ne crois pas que ça soit donc une fois encore une question particulièrement américaine. Ce qui s'est passé, notamment sur les vétérans de Vietnam, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont été pris comme bouc émissaire pour que la société américaine se décharge de sa propre culpabilité et ça a provoqué des réactions patriotiques à l'opposé. Comme qu'on était très fiers de...
Yeah. So I mean I think it's a central question. Returning home, it made me think about my military service, but it also made me think about my responsibility as a citizen.
Mais surtout le fait de rentrer au pays, ça m'a permis de m'interroger sur ma responsabilité lorsque j'étais engagé, mais surtout sur ma propre société, la société dans laquelle je vis.
And it's also so bizarre to come home when so few people are serving and there's such a few sense of the fact that we're at war. How could you not try to make literature out of that? It's the only thing that would work.
Et puis c'est tellement étrange lorsque vous rentrez au pays et où qu'il y a si peu de signes tangibles que votre pays est en guerre. On se sent tellement en décalage qu'on ne peut pas ne pas prendre ça comme sujet de littérature. C'est tellement fascinant.
I remember a homecoming where there was a unit that had been in very difficult fighting in Afghanistan, and the families were all waiting for them, and they'd set up all these bouncy castles for the kids. So they're like the unit's first sight was bouncy castles and hot dogs.
Je me souviens d'un retour après une mission de combat extrêmement violente d'une équipe, d'une patrouille qui rentrait au pays et on avait installé des, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, vous savez, ces grandes, des châteaux gonflables pour que les enfants s'amusent.
I like the way it sounds in French.
Des châteaux gonflables. Et puis des stands de hot dog. Et la première chose que ces gens ont vu en descendant de l'avion, c'était ça, c'était ces châteaux gonflables et ces stands de hot dog.
I'll stop there. I talked enough.
Bon, je m'arrête là. Je crois que vous avez compris.
La prochaine question que je voudrais aborder, c'est la question de la religion qui est présente à la fois dans Fin de mission et dans Goat Mountain, de façon très différente, évidemment. David, il y a énormément de références à la Bible dans Goat Mountain, notamment à Abel et à Caïn. Et est-ce que votre livre est une sorte de conte biblique un peu apocalyptique? Est-ce que c'est ça que vous vouliez donner comme idée?
I'm a neoclassical writer writing Greek tragedy set in Alaska and California, and my family fits really well into Greek tragedy. So do I. I live my life unconsciously and out of control and don't know what I'm doing.
je me définis comme un écrivain néoclassique qui écrit des tragédies grecques qui ont lieu en Alaska et en Californie, et je m'inspire beaucoup de ma famille et moi-même je vis comme ça, c'est-à-dire que je suis un être inconscient qui vit sa vie sans avoir conscience de ses actes.
And tragedy is for 2500 years it's been about examining our badness. It's a safe demon land where we can think about our goodness but especially our badness. It's an external shape of what we feel inside.
Et la tragédie depuis 2500 ans en fait pose la question de la réflexion qu'on peut faire sur les conséquences de ses actes.
And the goal or end of that of tragedy is to describe an inferno, a hell. I mean, there are many works of literature through time that have been depictions of hell, essentially. The most recent great one being Cormac McCarthy's Blood Meridian.
Et le but de la tragédie, c'est de décrire l'enfer. Ça a parcouru toute la littérature mondiale depuis tant de siècles. Le dernier en date étant, par exemple, Méridien de sang de Cormac McCarthy.
So, in the first chapter of this book, the boy kills a poacher, a man who's hunting illegally on the land, and he doesn't feel anything when he shoots him. And that was my thinking about the school shooter that I'd written about, how he felt nothing when he killed everyone in the class. Then he kills a buck, and the buck killing is very difficult, and he gains compassion or empathy through that and doesn't want to kill anymore.
Dans le premier chapitre de ce livre, un enfant tue un braconnier qui chassait donc illégalement sur leur terre et il n'éprouve absolument rien. Et un peu plus tard dans le livre, il va tuer un cerf et c'est un acte qui est pour lui très difficile, sur lequel il va s'interroger et qui va lui permettre de gagner d'éprouver un certain sentiment de perte.
So it's about Cain and Abel because it's about the part in us that can kill and cannot feel anything or that can want to kill or that can kill just based on an idea. It's very human that we can kill even when we don't want to kill.
Et ce livre se rapproche de l'histoire de Cain et Abel justement parce qu'il s'adresse à la part de nous qui fait qu'on peut tuer sans rien éprouver. Ou qu'on peut tuer pour une idée.
But the book is so weird for its version of Christianity. I promise this is a strange vision of Christianity that you'll find in these pages. And it was strange for me to find out each chapter. A lot of the chapters open with some rewrite of the Bible. You know, missing the various beast transformations that Jesus should have gone through, for instance.
Mais ce livre propose une vision particulièrement étrange du christianisme. Même pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit la vision qui faille en avoir. Chaque chapitre commence par une réécriture d'un chapitre de la Bible.
And I didn't expect that the grandfather would become a kind of terrible Old Testament God, or the buck would be like the Holy Ghost, or that the poacher who's killed would become like Jesus.
Et je n'avais pas du tout prévu que le grand-père allait se transformer en un dieu tout-puissant de l'Ancien Testament, que le cerf qui a été abattu allait être une forme d'esprit saint et que le braconnier qui a été assassiné allait se transformer en Jésus-Christ.
I didn't realize how much religion was buried inside of me and that if I think about goodness or badness, inevitably I have to think about it in that frame.
Et je n'avais pas du tout conscience de la pas importante que la religion occupée au sein de, en moi, en fait. Et à chaque fois que je dois m'interroger sur ce qui est bien, ce qui est mal, je dois nécessairement me placer dans ce cadre-là.
Phil, votre rapport à la religion dans Fin de mission est beaucoup moins complexe que celui de David. Et vous êtes un écrivain de confession catholique. Et d'ailleurs, dans le livre, vous avez, c'est Fin de prière, vous avez le personnage principal de la nouvelle est un aumônier qui est démuni. Qui est démuni face à l'horreur et aux difficultés que subissent les soldats. Comment votre foi a influencé l'écriture de ces nouvelles?
Well, I grew up reading a lot of Catholic literature. François Mauriac, Shusaku Endo, Graham Greene, Flannery O'Connor, Evelyn Waugh.
J'ai grandi en lisant beaucoup d'écrivains catholiques, François Mauriac, Evelyn Waugh, Flannery O'Connor. Which was
Graham
the second one? Graham Greene.
Okay. Yeah.
Second one was
Shusaku Endo.
Shusaku Endo, je ne connais pas.
It's fantastic. read them. The concerns of a lot of these writers fit very well. I mean, the military and kind of religious organization have some similarities.
Il y a quelques points communs entre l'armée et certaines organisations religieuses.
There's a very clear code of ethics. There's a system of kind of a mythological system, right?
Il y a un code éthique qui est très clairement déterminé. Il y a aussi un système mythologique.
You even have saints, basically, in the Marine Corps. There are stories of Medal of Honor recipients, the guy who jumped on a hand grenade and saved his buddies or did some other heroic act in war.
Il y a même des saints dans le corps des Marines, ces histoires qu'on se raconte sur les soldats qui ont gagné la médaille d'honneur du Congrès en jetant sur une grenade qui allait exploser pour sauver leurs camarades, par exemple.
So there's this system that people are either trying to live up to or they're violently rejecting that defines for them some of the choices that they're making.
Et donc il y a aussi ce système contre lequel les gens s'opposent violemment ou avec lequel ils essayent de se conformer tout aussi violemment.
And then there's the conflict of the mythology with the very particular circumstances where it doesn't offer you ready answers.
Et il y a ce conflit permanent entre le mythe et le fonctionnement normal où vous ne n'avez pas, enfin, qui ne vous permet pas de trouver des réponses.
David, dans tous vos récits, y compris dans Goat Mountain, il y a la nature est omniprésente, elle est extrêmement sauvage. Est-ce que il y a une vraie corrélation entre nature et violence pour vous?
I see nature as just being a mirror, that it's not a place of our goodness and innocence as we want it to be through American transcendentalists and British romantics.
Pour moi, la nature est surtout un miroir. Ce n'est pas un endroit qui nous permet de retrouver notre bonne nature ou la bonté naturelle qui est en nous comme le prétendent les écrivains transcendentalistes américains.
The method in all my books has been just to describe the place, to describe the landscape. And it acts like a Rorschach test, like an inkblot drawing. The forest or the ocean can't remain neutral. They end up taking a shape and a meaning in the description that indicates the inside life of the character.
Et dans mes livres, j'utilise cette méthode qu'on peut comparer à un test de Rorschach, vous savez, avec les taches d'encre, qui fait qu'une forêt ou la mer ou un décor naturel quelconque ne peut pas rester neutre. Il en vient au bout d'un moment à prendre une certaine forme.
And so, if what's happening inside the character is terrifying or dark or feeling guilt or whatever, then what they see in the landscape mirrors that.
Et lorsque un personnage éprouve des sentiments comme la culpabilité ou la haine, il va voir le paysage évoluer de manière à ce que ça reflète ses propres sentiments.
And I was lucky not only to grow up in a family with 5 suicides and a murder, which was so great for fiction, but also these landscapes that in themselves are kind of extreme and potentially terrifying or isolating, the cold and huge expanses of Alaska and the risk there, and then also the kind of burning inferno where we went hunting every year with rattlesnakes and really spiny brush and such in California.
Et dans ma famille, j'ai eu la chance non seulement de grandir dans une famille où il y a eu 5 suicides et un meurtre, ce qui est toujours très utile pour un écrivain de roman, mais les paysages dans lesquels j'ai grandi étaient aussi extrêmement inspirants. L'Alaska, très menaçant, très froid, et la fournaise en Californie où on allait chasser avec des serpents à sonnette, des épines partout.
David, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, la notion de bien et de mal est quelque chose de fondateur dans vos récits. Dans Goat Mountain, je crois vers le milieu du récit, le petit garçon dit de son père « Mon père croyait encore en notre bonté. Il croyait que nous pouvions arranger les choses, garder l'enfer à bonne distance. » Il était donc destiné à une lutte et une souffrance éternelle. Vous croyez à cette souffrance éternelle en tant qu'écrivain?
A strange thing happened in this book, which is that it really is Greek tragedy. It's got only 4 characters. There's the boy, who's the main character, the grandfather that he's locked in struggle with, and then the other 2 characters ended up being chorus figures. And the father really is a moral man, and his friend Tom is an everyman.
Il s'est passé quelque chose d'étonnant dans ce livre, qui est donc une tragédie grecque, où il y a le personnage principal qui est le fils et son grand-père avec lequel il va rentrer en conflit. Et il y a ces 2 personnages annexes que sont le père, qui est un homme bon, et l'ami de la famille, Tom, qui est un homme ordinaire.
And so, of course, any moral person who's trying to uphold a code of our right behavior and some way in which we would belong to that or own that, always struggles in the face of the facts. Like, how is it that the boy can kill and not feel bad? How are you supposed to answer that in a moral context?
Et la question qui se pose pour toute personne morale qui cherche à savoir ce qui est bien, ce qui est mal en fonction d'un certain contexte, est de savoir comment est-ce que cet enfant, ce garçon, peut en arriver à tuer quelqu'un sans rien éprouver.
The grandfather's closest to being antimatter. He brings everything into existence, but is also okay with its annihilation. He doesn't actually have a moral sense. And so the father is pretty helpless in the face of dealing with him.
The grandfather's like antimatter.
Et le grand-père dans le livre est comme de l'antimatière. Il a ce pouvoir de tout créer et en même temps de tout détruire. Et le père, par rapport à ça, est complètement impuissant.
Yes, the father just struggles against that. So I do think that it's very hard, like in the context you're writing about too, in war, it's very hard to maintain any kind of moral point of view or to be able to argue for it. It's difficult when the facts aren't cooperating.
Et le père donc est confronté à son grand-père qui a ce pouvoir destructeur, et je pense que comme dans les livres que tu écris, Phil, c'est difficile d'apporter un point de vue moral lorsqu'on ne peut rien faire.
Merci à tous les deux. Je voudrais juste terminer la rencontre sur une citation, je crois que Oliver, vous aimez bien, de Lilo, qui dit « L'écrivain est la personne qui se tient en dehors de la société, indépendant de toute influence. Les écrivains américains devraient se lever et être plus dangereux. » Et je voudrais savoir quel est votre sentiment à ce propos.
Phil fits that perfectly, actually. That's great. I mean, his role is actually important. What he's doing has some relation to the larger society and matters. I'm just telling my family stories. I'm not sure it matters so much.
Alors, David dit que Phil, effectivement, est tout à fait dans cette... ce profil-là, moi, je raconte juste des histoires de famille, mes souvenirs.
Okay, I'm going to disagree with you on that. I think
je vais être en désaccord avec toi là-dessus.
Because we think that it's not that something matters because of the subject matter, but because of how honestly it's approached.
Parce qu'en réalité, c'est pas parce que le sujet est important qui fait que l'histoire est importante, c'est la manière dont on traite ce sujet-là.
So when I was writing the priest story, I read Diary of a Country Priest because, okay, it's set in the countryside, but it's the same. He's interested in suffering. He's interested in the consequences of evil actions. He's interested in how people become wrapped up in rage and isolated and the fallout from that, and how to actually reach across and communicate with other human beings.
Et je vous parlais tout à l'heure du journal de la curée de campagne qui se passe dans un petit village, mais pourtant c'est un livre qui parle de la souffrance, de la manière dont on réagit par rapport à ça, de la manière dont des gens vont rentrer en conflit et comment tout va s'articuler autour de ça.
So I definitely agree with the DeLillo quote, but I don't think it's because the writer, you know, takes on the hot button subject of the day.
Yeah, we actually both agree, like, we don't like Dave Eggers, either one of us. And it's because he tries to take on the hot subject of the day, and who cares? It's just an idea about it. Anyway.
Donc Phil disait, mais je suis tout à fait d'accord avec la citation de Don DeLillo, mais je pense que c'est pas parce qu'on... on doit appuyer sur le bouton rouge de la question brûlante du jour que c'est important. Et là, David dit, je suis tout à fait d'accord avec Phil. On est d'ailleurs tout à fait d'accord pour dire qu'on n'aime pas Dave Eggers qui écrit en prenant le sujet à la mode. Voilà.
Because Phil's actually writing about his experience, whereas Dave Eggers would write just about, you know, some place he hasn't been, something he doesn't know a lot about, but he has some like thoughts about it.
Alors, par exemple, Phil va écrire sur quelque chose qu'il connaît, son expérience, alors que certains écrivains vont parler d'un sujet auquel ils ne connaissent rien, d'un pays où ils n'ont jamais mis les pieds, mais simplement, ils y ont pensé.
Voilà. Do you have Dave Eggers for sale in your shop?
Si vous vendez si vous voulez acheter des livres de Dave Eggers dans le magasin.
He's bigger than I am. He plays basketball. I hope I don't meet him.
C'est un écrivain beaucoup plus important que moi, pourtant.
Je vais remercier Phil, Oliver et David pour leur présence. Et merci beaucoup.